M. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, c'est la reprise d'une association qu'on aime beaucoup sur Radio Évasion et pour laquelle on a eu peur en fin de saison dernière. Le réseau paysan et rural du Finistère, le CIVAM, était en grand danger financier pour cause de retrait de sa subvention départementale. Mais depuis, ça s'est un peu arrangé, heureusement. Et on a en tout cas le plaisir d'accueillir indirectement l'association dans cette émission de nouveau, donc une fois par mois. Alors parfois directement, mais aujourd'hui, ça sera plus indirect. On s'intéresse à un élevage d'animaux avec des poils, mais aussi des ailes. Ah, donc ce sont des poules velues, des licornes? Eh bien non, pensez plus petit. Oui, vous y êtes. Ce sont les abeilles. Bien sûr que c'est un élevage d'insectes. L'apiculture aura même son congrès national les 21 et 22 octobre à Quimper. Et on a donc avec nous deux membres du CIVAM, ou en tout cas partenaires du CIVAM. On a par téléphone une apicultrice de Porspoder, Charlotte Lossec. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Et nous avons en studio Simon Lecor, venu de Briec et apiculteur. Bonjour Simon.
Bonjour.
Déjà, je vais vous demander à chacun, chacune, pourquoi est-ce que vous avez choisi cet élevage? Alors Charlotte, on commence par vous peut-être. Pourquoi vous avez choisi les abeilles?
J'ai choisi les abeilles, mais je ne pensais pas à un autre animal. Pour moi, c'était mon intérêt pour l'environnement et la pollinisation qui m'a conduit vers les abeilles. Et aussi pour les produits qu'elles fabriquent, qui sont plein de richesses, aussi bien le miel que la propolis ou le pollen.
Et vous, c'est votre métier à temps complet, apicultrice, vous en vivez?
Je suis en reconversion professionnelle et je suis actuellement en formation. Je fais un BPREA, donc c'est un brevet professionnel pour être responsable d'exploitation agricole. Et c'est le projet d'être apicultrice professionnelle.
Oui. Et vous, Simon, alors pourquoi vous avez choisi les abeilles?
Je ne sais pas vraiment. C'était quelque chose d'assez sensoriel, je sais pas, olfactif, je pense.
Ça peut être sonore éventuellement. Alors vous avez en fait, en plateau, il y a aussi des invités de plus petite taille. Je ne sais pas si elles seront disposées à parler, mais vous nous les avez amenées en tout cas. Est-ce qu'elles vont nous dire quelque chose?
Non, je pense pas.
Non, elles ne veulent pas.
Bon. Ah, si,
on entend un petit grésillement, mais ce n'est pas évident. Ouais, bon, on va pas les forcer non plus, on force personne à parler. Ce qu'on se demande toujours, quand on connaît pas bien le monde des abeilles, on a l'impression qu'il y a qu'une seule sorte d'abeille. En fait, non, il y a des milliers d'espèces, c'est ça, Simon?
Des milliers d'espèces, c'est plus si on parle de... Ouais, il y a des milliers d'espèces, je crois, dans le monde. Hein, mais,
ouais, dans le monde, si on prend le monde entier, quoi.
Principalement solitaire, et sinon, il y en a une qui est principalement utilisée par l'homme, ou l'humain plutôt. pour en tirer profit, on va dire, alimentairement. Et donc, c'est Apis mellifera.
Et quand on pense à, par exemple, les abeilles noires d'Ouessant, c'est pas une espèce différente vraiment, en fait, c'est ça?
Non, on peut dire que c'est une sous-espèce d'Apis mellifera. Donc, celle de Ouessant, c'est Apis mellifera mellifera. Mais il y a aussi Apis mellifera caucasica, par exemple la caucasienne, ou donc Apis mellifera carnica, carniolienne, qui est du centre de l'Europe, plus Autriche, Suisse, Allemagne aujourd'hui. Et donc il y en a comme ça en Europe, je ne sais plus, 4 ou 5.
Mais elles sont toutes, en fait, elles peuvent toutes se reproduire entre elles. Enfin, c'est pour ça que ce n'est pas une espèce à part entière.
Elles sont interfécondes, oui.
Interfécondes. Et est-ce que vous avez une sous-espèce locale d'abeilles, Simon, des abeilles de Briec?
Ouais, bon, on pourrait rentrer encore plus dans le détail, ou donc au sein de l'abeille noire, par exemple ici, donc Apis mellifera mellifera, il y aurait des haplotypes, des différences génétiques. À Ouessant, c'est un conservatoire de l'abeille parce que c'est assez homogène, donc l'abeille noire. Mais moi j'ai plusieurs sous-espèces qui sont mélangées. Donc de toute façon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'hybridation globalement sur le continent. Et après, ça donne lieu à beaucoup de débats chez les apiculteurs.
Ah ouais. Et vous, Charlotte, les abeilles que vous élevez, elles étaient là? C'est vous qui les avez choisies? Comment ça s'est passé?
Il y a eu différentes cas de figure. J'ai eu une donation d'abeilles, donc c'était des abeilles assez hybridées avec différentes génétiques. Et j'ai aussi acheté donc des essaims, donc qui sont des colonies d'abeilles, des abeilles donc normalement noires. Et ensuite, après, bah, sur le sujet de la génétique, c'est vrai qu'on contrôle, on peut le contrôler, mais c'est dur à contrôler. Une reine, elle va se faire féconder par 15 à 20 mâles. Et le périmètre est assez large, en fait. Pour un mâle, ça peut aller jusqu'à 10 km. Donc, en fait, on contrôle très peu la génétique si on laisse un petit peu faire les choses. Donc, à s'assurer d'avoir un certain type d'abeille, même si on peut se dire que visuellement, elle est noire, elle n'est pas complètement... Elle va se mélanger facilement.
Et d'ailleurs, c'est une question qui me vient. Là. Les mâles, ils habitent pas la ruche, en fait. Ils sont où, Charlotte?
Bah, ils habitent la ruche pendant la période, on va dire, de forte activité. C'est-à-dire que pendant le temps où les abeilles auront besoin de se, enfin où les reines auront besoin de se reproduire, les mâles seront en fait pondus par la reine, mais ils sont aussi gardés au sein de la colonie. Alors que sur la période hivernale, où dès que les ressources vont commencer à baisser, donc là les mâles ont déjà été chassés des ruches depuis déjà quelques semaines. Enfin après ça, il peut y avoir des exceptions, mais les mâles ne sont pas dans les ruches pendant la période hivernale. Ils ne sont pas conservés par toutes les ouvrières et la reine.
Et ils se trouvent où alors? Ils habitent dans des trous tout seuls?
ils ne survivent pas. Leur cycle est fini. Et en fait, il y aura de nouveaux mâles sur la saison d'après. Une fois que la reine va se remettre à pondre des mâles, là, il y aura l'émergence de nouveaux mâles. Mais là, en fait, non, ils sont chassés des ruches et ensuite, à l'extérieur, ils vont pas vivre seuls parce qu'ils vont pas s'alimenter par eux-mêmes. Enfin, ils seront pas pour se tenir chaud seuls, ça va pas être facile. Donc, en fait, ils ne survivront pas.
Ah oui, c'est ça l'intérêt d'une ruche. C'est pour ça que les abeilles ont eu tendance à s'associer. C'était pour se tenir chaud au départ, Charlotte Le Sec.
Elles s'associent parce que c'est des enfin, c'est dans leur, sur l'abeille, on va dire, on l'appelle domestique, mais l'abeille, la mellifera, en fait, elles ont le sentiment et l'envie d'être pour la colonie et par la colonie. Donc, en fait, c'est une logique de groupe. La colonie est un individu plus qu'une abeille à part entière. Enfin, en fait, on peut pas considérer une abeille toute seule. C'est vraiment cette logique de colonie. Donc, forcément, il y a se vivre ensemble, il y a, se tenir chaud, mais il y a collecter les ressources, chacune a un rôle qui est pour servir la colonie. Donc il y en a qui vont aller chercher du pollen, du nectar, il y en a qui gardent la ruche, et tout ça est fait pour un super organisme en fait qui dépend de la multiplicité de toutes ces abeilles dans une ruche.
Et on sait,
elles vont se tenir chaud l'hiver, comme elles vont ventiler, enfin elles auront différentes fonctions, mais il y a toujours cette idée de boule, de grappe, d'unité qui va se créer autour d'une reine.
Et on sait depuis quand est-ce qu'elles sont domestiquées par les humains, les abeilles, Charlotte?
Domestiquées comme on le fait aujourd'hui avec nos principes, on va dire, de cadre mobile, c'est relativement récent, j'ai pas les chiffres vraiment en tête, mais de tout temps, l'homme a quand même eu conscience des produits de la ruche et des bienfaits, que ce soit pour embaumer les corps, pour le miel comme on appelle ça le nectar des dieux, c'est que dans la mythologie c'est déjà utilisé, donc c'est très ancien, où on connaît en tout cas les vertus de la ruche et des abeilles. Après la domestication, elle est beaucoup plus récente, si on l'entend par mettre des abeilles dans une boîte et visiter une colonie cadre à cadre.
Mmh. Alors Simon Lecor, racontez-nous un peu comment ça se passe. Déjà les produits de la ruche, il y a le miel bien sûr, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Si on peut dire les produits de la ruche, c'est souvent dénommé comme ça, mais on pourrait le voir autrement. Mais alors le miel, donc, elle l'extrait à partir du nectar des fleurs, qui est composé à la base de 80% d'eau, et ensuite elles en font un truc avec 80% de sucre, elles déshydratent, donc ça fait du miel. Le pollen, le collecte aussi sur les fleurs. Donc là, c'est les poudres. Donc elles en font des pelotes et qui servent à nourrir les larves. Donc elles ne font pas de miel avec le pollen.
Hein, et le miel, ça leur sert à quoi, à elles?
C'est leur nourriture quotidienne.
Ah ouais.
Donc, leur stock pour l'hiver aussi. Ouais. Ça sert même d'isolant, en fait, dans la ruche, en fait. On pourrait dire
ah
ça.
Oui.
Parce qu'en fait, elles vivent dans le miel. C'est comme si on vivait dans une miche de pain, quoi. Elles rêvent.
Pas mal. Si c'est du bon pain.
Oui. Et ensuite, bon, dans la ruche, on va trouver la cire aussi qui sert à faire leur, leur construction, quoi. Donc, la cire, elle est sécrétée par elle-même. C'est comme si elles avaient des petites ouvertures sous les côtes, là, comme ça, et qu'il y avait des pastilles de cire qui sortaient. Et avec ça, elles les malaxent, elles en font une construction pour pouvoir élever les larves, donc des hexagones, comme on connaît.
Voilà, les alvéoles, les fameuses alvéoles, des petites niches pour les larves. Ouais. Ouais.
Alors, il y a la propolis aussi.
Aussi, qu'est-ce que c'est
ça? C'est quand même important. C'est donc une résine qu'elle collecte sur les arbres, sur diverses plantes, à partir du moment où c'est assez collant. Et donc, il y a même. Dès que c'est collant, en fait, elles ont tendance à le récolter et elles calfeutrent tout petit trou, tout interstice dans la ruche, en fait, avec ça. Et donc, ça a plein de propriétés antifongiques, antibactériens, anti-tout, voilà. Et c'est très odorant, c'est très collant, c'est rouge à jaune, il y a plein de variétés différentes.
Et vous, comme apiculteur, alors pas encore professionnel, mais vous exploitez entre guillemets, vous récoltez tous ces produits-là, vous prenez que le miel
Ouais, économiquement, enfin, ou même pour moi, je récolte un peu de propolis, mais c'est anecdotique, et puis j'aurais bien aimé en faire un peu plus quand même. Et puis sinon, c'est du miel, ouais.
Et vous, Charlotte, qu'est-ce que vous récoltez de vos... Vous avez une centaine de ruches, c'est ça, je crois?
Ouais, sur l'hivernage cette année, j'aurai une centaine de colonies.
Et qu'est-ce que vous récoltez?
Du coup, j'ai récolté un miel de printemps et un miel d'été. Et j'ai récolté aussi de la propolis cette année. Et l'idée, c'est de récolter également du pollen dans l'année prochaine.
Et tout ça sera vendu, voilà. Ouais. On va revenir sur le système économique, mais j'aimerais en fait qu'on précise comment est-ce que l'apicultrice ou l'apiculteur travaille. Alors Simon, expliquez-nous en gros votre calendrier, qu'est-ce que vous faites, à quel moment
Bon, alors ça dépend des colonies, de la génétique, de l'environnement, de tout ça en fait. Déjà, c'est un boulot. Bon, certains ont un calendrier très établi, mais voilà, c'est quand même la météo.
Ouais, c'est mieux d'observer ce qui se passe, quoi, c'est ça?
Ouais.
Et de réagir en fonction de ce qui se passe.
Bah, il ne faut jamais oublier ça, en fait.
Ouais. Ah ouais. Et alors, c'est quoi, en gros, les étapes, sans donner de calendrier trop précis?
Bon, en gros, la saison, elle démarre en mars. Et donc, les colonies se réveillent de l'hiver. La reine commence à pondre de plus en plus. Et puis, il y a une miellée de printemps. Donc c'est-à-dire qu'il y a un apport massif de pollen, de nectar. Donc la colonie, elle explose quoi, au printemps. Là, on peut faire une récolte de miel de printemps si on est en surplus. Parce qu'ensuite, il y a une période d'essaimage où les ruches, en fait, cherchent à se... Il y a la moitié de la colonie qui s'en va pour fonder un autre essaim. Ça va durer jusqu'environ juillet, on va dire, cette période d'essaimage.
Et là, à ce moment-là, vous les... Entre guillemets, vous leur créez des nouvelles boîtes, c'est ça, pour qu'elles aillent dans les boîtes
ou... On utilise du coup ce phénomène, je ne sais pas si on peut dire ça, ouais, naturel, pour on surfe là-dessus, en fait, pour multiplier les ruches.
Ouais. Ah ouais, donc il y a une ruche, on donne une deuxième, ou on peut en donner plus éventuellement
Ouais, ouais, bah là, c'est encore, ça dépend de plein de paramètres, mais ouais, bien sûr, ouais, on peut multiplier parfois... Beaucoup.
Ouais.
Mais en fait, souvent, on croit qu'on va multiplier beaucoup et en réalité, ça ne se passe pas comme ça.
Ah oui? D'accord. D'accord.
Pas trop beau.
Et donc, vous avez, une fois que l'essaimage a eu lieu, elles refont du miel, c'est ça ou
Bon, c'est un peu plus... On ne va pas pouvoir rentrer dans les détails, mais... comment orienter Ouais, l'essaimage, s'il a lieu, en fait, elles vont continuer à faire du miel, par exemple. Mais pour nous, on ne va pas pouvoir faire de récolte de miel, souvent. Hein.
Ah oui,
ouais, parce que bon, les abeilles seront parties, donc bon, elles vont, y aura une ruche qui va se suffire à elle-même, mais elle n'aura pas fait un surplus qu'on va récolter, parce que nous, on récolte le surplus des ruches.
Ah d'accord, c'est ça. Ouais, Charlotte Le Sec, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment... il paraît qu'il y a des transhumances à réaliser pour aider les abeilles. Vous faites ça, vous?
Non. Bah, en fait, ça dépend des apiculteurs. Certains apiculteurs, en fait, pratiquent la transhumance. Donc, c'est le principe de déplacer des colonies pour les emmener sur une certaine ressource. Ça peut, un endroit qui est assez connu en France, c'est Valensole. C'est un plateau, en fait, où il y a une grande production de lavande, et souvent bah, dans le sud, beaucoup d'apiculteurs vont chercher cette lavande pour pouvoir faire du miel de lavande. Moi, dans mon cas, je ne transmets pas les colonies, parce que mon idée, c'est d'être sur des ruchers qui sont sédentaires, donc qui restent au même endroit toute l'année, et où je fais un miel qui parle un petit peu du terroir. L'idée, c'est dans cette logique de cru, comme avec les vins, où en fait, le miel, ça révèle un territoire, donc ça révèle la flore qui est présente sur le territoire. Donc moi, mon souhait par rapport à mon projet d'exploitation, c'est d'avoir un produit qui est de mon terroir et de pas déplacer les abeilles pour une recherche de miels spécifiques.
Et c'est d'ailleurs une question qu'on se pose quand on n'y connaît rien. C'est comment est-ce que vous pouvez être sûr, enfin, qu'il y a marqué sur le pot de miel, miel de ronce, miel de bruyère, comment vous pouvez être sûr que c'est vraiment ça, Charlotte Le Sec?
Bah alors, pour les appellations qu'on appelle du coup l'appellation monoflorale, généralement, on sait qu'on dans l'environnement autour des ruches, bah les abeilles, on va dire qu'elles butinent à 3 km autour de leur ruche. On sait qu'il va y avoir une dominance de mettons de ronces, et sur la période de floraison de la ronce, on sait que ça va être principalement ce nectar-là que les abeilles vont rentrer dans la ruche. Mais pour pouvoir en fait après être sur une appellation monoflorale et commercialiser ainsi le produit, il faut faire des analyses et en fait il faut s'assurer qu'un certain pourcentage de pollen est atteint pour être sur une appellation monoflorale et non toute fleur ou polyflorale.
Ah oui, et donc vous faites pas spécialement ça, Charlotte?
Non, moi c'est que du polyfloral, c'est du toute fleur. En fait, c'est le miel d'un lieu dit, d'une commune, avant d'être le miel d'une certaine fleur.
Et qu'est-ce qu'il y a par exemple comme fleur? Qu'est-ce qui est butiné du côté de Porcepoderre?
Du côté de Porcepoderre, on a sur l'été, on avait beaucoup de ronces, on avait du châtaignier. C'était principalement, on va dire, ces deux ressources qui étaient présentes dans le miel. Après, on va dire que sur l'été, c'est ce qu'on va trouver un peu dans le coin, en fonction des ruchers. Il y aura peut-être plus de châtaigniers, moins de ronces. Après, on peut avoir du trèfle blanc aussi, il y a le pissenlit qui est présent dans les pelouses. Enfin, c'est toutes ces petites ressources-là aussi qui feront la diversité du miel.
Et vous, Simon Lecor, du côté de Briec, vous avez aussi une logique de terroir, de miel de terroir
Ouais, je suis assez comme ça, ouais, mais c'est vrai que là, cette année, j'ai voulu aller chercher un peu plus la bruyère. Et puis le sarrasin aussi, où j'ai déplacé mes ruches, mais bon, c'est des transhumances sur quoi? Sur 20 km, quoi. Donc, ouais.
On est pas... Ça les gêne pas trop, les abeilles? Ça les perturbe pas? Elles s'adaptent?
Toujours difficile de se mettre à la place d'un animal. Je ne suis pas cet animal.
Ouais. Surtout si petit.
Mais ouais, c'est limité quand même, quoi. Je pense que beaucoup de gens voient ça d'un mauvais œil, mais par exemple, c'est vrai que dans le sud, je sais que c'est quasi culturel, la transhumance. Bon, après, c'est pas parce que c'est culturel que c'est bien, mais non, voilà, je suis plus dans un truc de terroir. Et puis, c'est vrai que, Briec, on a pas mal de miel de trèfle dans les pâtures aussi. Sinon, l'été, c'est classiquement ronce, châtaignier. Y a plus de sarrasin cette année, mais il n'a pas forcément donné du miel, mais
ah oui.
Plus de sarrasin planté.
Ah oui.
Sinon, on a du colza au printemps, quoi.
Ah ouais, donc ça, c'est... vous, votre terrain, ça ressemble à quoi, à Briec, votre terrain habituel, en tout cas?
C'est un ancien bassin laitier, donc... Enfin, qui est en train de changer. Donc, il y a pas mal de pâtures, historiquement. Il y a de plus en plus de cultures, ça, c'est un problème, un peu. Un problème.
Oui, parce qu'elles peuvent pas butiner, je sais pas, le maïs ou des choses comme ça, quoi. C'est ça? C'est ça que vous voulez dire?
Par exemple, ouais, ce qui fait aussi, enfin, en fait, c'est que le degré de naturalité d'un paysage qui est constamment avec des cultures, il est quand même bien moindre que dans un paysage de bocage, pâture, prairie permanente, où vous avez des espèces qui vont s'installer sur le long terme, par exemple, quoi.
Oui. Et on peut parler alors de cru de miel, comme on pourrait parler de vin, Charlotte Le Sec, selon les années, quoi, aussi.
Oui, et puis c'est la définition d'un cru, il y a vraiment cette dépendance à un terroir, et je pense que le miel, c'est un produit qui est vraiment dépendante du terroir dans lequel sont les abeilles. Donc, je trouve que le parallèle, en fait, avec le vin, il est pertinent, même sur la conservation du miel. C'est à l'abri, enfin, à l'abri de la lumière, 14 degrés. C'est des produits qui sont assez similaires. C'est en tout cas, moi, ça fait du sens pour moi, ce parallèle.
Et alors, en termes de modèle économique, vous, donc Charlotte, vous êtes en reconversion, mais votre idée, vous disiez, c'est vraiment de vivre totalement du miel. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, est-ce qu'il faut un nombre minimum de ruches, une certaine qualité de miel, etc.? C'est quoi, en gros, pour pouvoir en vivre?
Du coup, moi, l'idée, c'est vraiment de ne pas vivre exclusivement du miel. Hein. C'est d'avoir aussi, de travailler avec les autres produits que peuvent faire les abeilles, donc le pollen, la propolis. Et également le fait de commercialiser des essaims, là, des apiculteurs, qui fait partie aussi des possibilités pour l'exploitation apicole. Après, au niveau, on va dire, un peu réglementaire, c'est que pour être considéré chef d'exploitation et donc être cotisant de plein droit, en fait, il faut avoir soit un certain nombre de ruches, qui est 200, soit dégager un revenu suffisant, soit consacrer un certain nombre d'heures à de la transformation. En fait, il y a ces trois paramètres qui rentrent en jeu et qui vont déterminer si on est en fait juste cotisant solidaire, donc en fait ça va être un apiculteur qui peut être apiculteur de loisirs ou pluriactif, ou si on est, on va dire, un apiculteur professionnel et qu'on est, en tout cas aux yeux de la MSA, si on veut, et donc...
La mutualité sociale agricole. Oui, d'accord, avec la sécu des...
C'est très pratico-pratique, mais
ah ouais, tout à
c'est
fait.
Ce qui permet de cotiser pour le chômage, c'est ce qui permet de faire toutes ces... pour la retraite, pardon, pour toutes ces choses-là. Donc en fait, il y a ce cadre-là, mais comme tous les métiers agricoles, où en fait l'élevage est conditionné par une certaine surface... un certain nombre de têtes.
On ne rentre pas dans les cases d'ailleurs.
Hein, ouais, que... voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, vous êtes quoi, vous êtes quand même un élevage.
Oh, ils nous demandent combien on a d'hectares et puis on ne peut pas mettre le nombre de ruches.
Hein. Ah ouais. Et vous en avez, Simon Lecorf, vous en avez 80 des ruches, c'est ça?
Ouais, à peu près.
Et vous disiez que vous vous professionnalisez doucement, enfin vous n'êtes pas encore professionnel, mais en fait c'est quoi qui fera la bascule entre...
Bon, il y a plein de questions là-dedans, mais ouais. moi j'ai augmenté le nombre de ruches petit à petit et puis... Voilà, j'ai eu plein d'échecs aussi. J'ai pas fait une formation tout de suite. J'ai fait qu'au bout de 10 ans, en fait. Là, j'ai quand même envie d'arriver à 150 et puis après, je verrai, quoi. Voilà.
Mais ça se passe bien. Enfin, vous vendez bien votre miel. Votre production, ça va. C'est ça, en fait, aussi, non?
Ouais, je prends un peu la vie comme elle vient. Je suis peut-être moins organisé que Charlotte, je sais pas.
Oui, c'est ça. Vous n'avez pas forcément cet objectif-là.
Je fais d'autres choses aussi à côté, un peu. D'accord. Quoi. Voilà, d'autres activités, quoi.
D'accord. Et vous disiez, en plus, il y a de plus en plus de concurrence. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire du miel, c'est ça?
Concurrence, je sais pas. Bah, c'est vrai qu'on est quand même de plus en plus nombreuses en Finistère. Enfin, je pense qu'il y a globalement un attrait pour l'apiculture et pas seulement que amateur. Il y a aussi quand même plein de gens qui souhaitent vraiment en vivre. Tant mieux si les gens y arrivent, quoi. Après, je sais que je pense que c'est un secteur où il peut y avoir peut-être une concurrence plus rapide, puisque en fait historiquement c'est un petit peu un marché de niche quand même. Hein, faut
c'est
le dire.
Ça. Oui, puis c'est. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est aussi un luxe parce que ça coûte très cher le vrai miel, hein, c'est ça.
Ouais, en fait, si ça coûte cher, c'est aussi peut-être. Enfin, en fait, je suis pas sûr que ça coûte cher, quoi. Moi, je
non,
sais pas
c'est...
qu'est-ce que. Parce que.
Ouais, c'est-à-dire qu'on trouve du miel pas cher, mais en fait, faut voir dans quelles conditions il est produit, quoi.
Ouais, voilà. Ouais, il est importé, etc. Mais un œuf moins cher. Aujourd'hui, sur les pots de miel, on peut voir les pays d'origine, mais c'est vrai que c'est quand même pas un métier facile, je pense.
Ouais, c'est
vraiment.
Ça.
Il y a plein de paramètres inconnus. Si vous voulez faire de l'argent, venez pas faire de l'apiculture, je pense pas. Enfin, ouais. c'est pas le principal truc auquel il faut penser.
Ouais. Et on voit que tous les deux, vous avez une conscience écologique importante. Et c'est vrai que les abeilles sont aussi cette sentinelle de l'environnement, comme on dit. Quelles sont les menaces qui pèsent le plus sur les abeilles, Charlotte Lececq?
On va dire que le changement climatique vient forcément influencer l'environnement, que ce soit au niveau du climat. Par exemple, un exemple très concret, c'est que si on n'a pas assez d'humidité dans l'air, certaines floraisons ne vont pas, certaines fleurs ne vont pas sécréter du nectar, et donc les abeilles ne pourront pas enfin chercher ce nectar-là pour après en faire du miel. Donc ça peut être voilà des questions de d'humidité, de sécheresse. Ça peut être aussi le sujet de, bah, de la monoculture qui vient. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est le on vient casser une diversité. Donc où on vient, oui, certes, par exemple, si on parle du colza, il y aura une ressource à un moment donné, mais quelques mois après, bah, il y aura plus du tout de ressources sur ce même endroit-là. Donc ça peut être aussi la monoculture est aussi un paramètre. Le sujet des pesticides également. Voilà.
Oui. Et donc finalement, les frelons asiatiques, c'est un peu un épiphénomène, Simon Lecor, c'est ça?
Je dirais pas ça parce que justement, j'étais en communication hier avec quelqu'un qui disait qu'il avait plein de problèmes sur ses ruchers avec les frelons. Mais globalement, il est surmédiatisé, je pense qu'on pourrait dire ça, par rapport à la responsabilité qui est quand même vraiment diminuée des pesticides. Parce que, enfin, il faut pas faire de l'apicentrisme. Si vous vous dites les pesticides tuent les abeilles, des gens vont vous dire c'est le varroa qui est un terrible parasite qui s'est développé dans le monde et qui décime les colonies, c'est vrai, si on ne fait rien. Si on n'intervient pas en tant que... Voilà. Mais en fait, il n'y a pas que les abeilles qui disparaissent, quoi. Les papillons de nuit, vous en voyez, vous, le soir, ouais. Les papillons, les oiseaux, enfin, tout ça.
Les insectes,
il y a quelque chose, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais bien sûr. C'est pas que le varroa, quoi.
Non, ouais. Je pense vraiment pas qu'on puisse.
Bon, alors l'émission s'arrête déjà, on est déjà arrivé au bout, mais on vous remercie tous les deux et puis on vous souhaite une bonne continuation. Peut-être que vous serez au Congrès national des abeilles.
Ah non, moi je serai pas là.
Ah bon, d'accord. À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Salut.
Et dans un instant, c'est la deuxième partie de l'EM avec Marie cultive la tulipe, un herbier sonore.